presque 18h20 sur France Culture. C'est l'heure du grain à moudre avec vous, Hervé Gardet.
Merci Aurélie Kiefer et à demain. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richet, Kieran Gessel, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son Myriam Guillot. Après la chasse aux tigres, après la chasse aux mouches, voici venu le temps de la chasse aux renards, nouvelle espèce animale dans le bestiaire anticorruption du pouvoir chinois. Car les tigres ne sont évidemment pas de vrais fauves, mais des officiels de haut rang, car les mouches appartiennent à la catégorie des cadres subalternes. Quant aux renards, ils ont quitté le pays et les autorités chinoises ont lancé des équipes à leur trousse. Et malheur aux familles de ces derniers restés en Chine. On apprenait avant-hier qu'un millier de fonctionnaires avaient été rétrogradés pour ne pas avoir collaboré avec les autorités. Alors pour mener à bien sa vaste campagne de lutte contre la corruption, le président Xi Jinping n'hésite pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à puiser dans le petit livre rouge, ce recueil d'aphorismes de Mao Tse-tung, abondamment diffusé en Chine sous son règne. Les tigres et les mouches viennent de là, tout comme la rhétorique utilisée pour justifier cette décision stupéfiante prise début décembre. Les artistes vont être envoyés à la campagne, au contact des masses rurales, afin d'y acquérir un point de vue correct sur l'art, pour reprendre les propos officiels, et être en mesure ensuite de servir au mieux les valeurs socialistes. Alors une telle décision renvoie au souvenir tragique de ce que fut la révolution culturelle. C'est peut-être d'ailleurs un des objectifs poursuivis. Alors le président chinois se rêve-t-il en nouveau Mao? Xi Jinping veut-il réécrire le petit livre rouge? C'est notre sujet du jour. Et pour discuter de cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir un historien chinois ce soir, Ding Dong. Bonsoir monsieur. Vous dirigez deux revues en Chine, Vieille photographie et Histoire orale, qui ont pour but de raconter l'histoire à travers les souvenirs de gens ordinaires, c'est-à-dire en dehors de l'histoire officielle. On a de la chance de vous avoir en Paris en ce moment, puisque vous interveniez hier aux séries sur le thème suivant, Histoire orale et réflexion sur l'ère maoïste. On va vous entendre dans un instant et je précise que vos propos seront traduits par Virginie Chen. Voilà. Je vous renouvelle mon bonsoir et mon merci pour votre participation à cette émission. Pour discuter avec vous ce soir, quelqu'un qui connaît bien la Chine, il fait des allers-retours très réguliers entre la France et la Chine, c'est Jean-Philippe Béja. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au CNRS, chercheur au Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Vous étiez à Hong Kong il y a encore quelques jours. Vous avez donc pu voir ce qui se passait dans les manifestations. Et puis la Chine, vous la connaissez, j'avais envie de dire, par cœur, tout comme notre troisième invité qui entre actuellement dans le studio. Dépêchez-vous, Émilie Frenkel. On n'attend plus que vous. Vous êtes maître de conférence, Émilie Frenkel. Bonsoir. Maître de conférence à l'université Paris-Est-Créteil. Vous avez passé plusieurs années en Chine et vous avez publié cette année au PUF « Parler politique en Chine ». Alors, démarrons sur ce qui a motivé l'organisation de cette émission aujourd'hui, cette décision d'envoyer des artistes à la campagne pour qu'ils puissent développer au contact des masses rurales une vision correcte de l'art. Jean-Philippe Béja, est-ce que c'est une décision d'abord qui a eu un impact important en Chine ?
Disons que ça a un peu étonné une grande partie des écrivains et des artistes. J'étais à Pékin il y a une quinzaine de jours et on parlait beaucoup de ça. Alors évidemment, je connais pas mal d'écrivains de ma génération qui eux-mêmes sont partis à la campagne quand ils avaient 18 ans, en 1968-69, et y ont passé 10 ans. Mais alors, bien sûr, il n'est pas question de recommencer la révolution culturelle. D'ailleurs, si on veut être plus précis, il faudrait plutôt parler de Yan'an, hein, parce que c'est plutôt à Yan'an, après 1942, après les conférences sur la littérature et sur l'art lancées par Mao Tse-tung, qu'on a décidé d'envoyer les écrivains et les artistes à la campagne pour qu'ils puissent écrire sur les souffrances des masses populaires et sur leur véritable vie. Alors bien sûr, le 19 octobre, Xi Jinping a convoqué une réunion de 72 écrivains et artistes et il a aussi fait part à ces artistes de ses idées sur la littérature et sur l'art. C'est une première depuis 1942.
Ding Dong, donc je rappelle, vous êtes historien, vous dirigez des revues d'histoire en Chine. Avez-vous été surpris par cette décision et en êtes-vous inquiet aujourd'hui ?
Quant à cette question, cette nouvelle politique, je ne suis pas tellement étonné que ça. Lors de cette rencontre de M. Xi avec la délégation d'artistes chinois, il a été très bien préparé à cette rencontre préalablement. C'est en fait une action nouvelle qu'il est en train d'engager.
Vous savez bien qu'en 1942,
Mao a organisé un même type de rencontre avec les artistes.
Xi
s'est en quelque sorte inspiré de cette rencontre entre Mao et les artistes en 1942.
Est-ce que vous pensez, M. Ding, que le président Xi a volontairement utilisé cette référence à un discours de Mao Tse-tung pour, en pensant que ça allait parler à la population chinoise? Autrement dit, est-ce que les Chinois connaissent suffisamment cette histoire pour comprendre la référence au président Mao?
Je pense qu'on peut analyser la question de deux façons.
La première façon
est de voir la chose par rapport aux méthodes de travail. Xi Jinping s'est inspiré directement de Mao, de la politique de Mao de l'époque. Mao venait d'être élu le suprême dirigeant du Parti communiste chinois pour remplacer Zhang Wentian. Après avoir résolu les questions politiques et militaires, il a suffisamment de temps et d'énergie pour se consacrer aux affaires artistiques. Les rencontres avec les artistes ont été organisées trois fois de suite. Nous avons hérité un discours prononcé par Mao lors d'une de ces rencontres qui est devenu en quelque sorte l'orientation en termes artistiques en Chine.
Voilà, une orientation artistique que l'on retrouve donc aujourd'hui à travers les propos du président Xi Jinping. Émilie Frenkel, on n'a pas encore eu l'occasion de vous entendre. À quoi ça sert aujourd'hui, du point de vue du pouvoir chinois et de son président, de lancer une campagne comme celle-ci? Est-ce que l'idée, c'est de dire on va essayer de, peut-être de faire peur à un certain nombre d'intellectuels? Est-ce que l'idée, c'est plutôt de surfer sur une forme de nostalgie de l'époque maoïste? Comment est-ce que vous analyseriez cette stratégie-là?
Je pense que c'est au moins pour ces deux raisons à la fois. Parce que il me semble effectivement assez évident que là, il fait preuve d'une certaine forme de populisme, en fait. Après l'éviction de Bo Xilai, beaucoup de personnes qui trouvaient que c'était pas si mal de revenir un peu autant au champ révolutionnaire, au champ communiste, etc.
Voilà, Bo Xilai, qui était un haut dirigeant chinois, qui a été évincé, mis en prison pour corruption, et voilà, qui était justement... dont on disait qu'il était peut-être lui le nouveau Mao, et en tout cas un concurrent ou un rival pour l'actuel président chinois.
Voilà, donc il y a un certain nombre de Chinois qui ont été inquiets au moment de l'éviction de Bo Xilai. Et donc là, s'il leur envoie, à mon avis, un petit signal, donc il surfe effectivement sur cette nostalgie. Je pense que bien sûr, il envoie un signal très fort aussi aux intellectuels, aux artistes, en leur disant attention à ce que vous faites. Voilà, on a un œil sur vous et on pense qu'il faudrait que vous travailliez autrement.
Les intellectuels, certains peut-être intellectuels chinois, sont inquiets. Jean-Philippe Béja, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Ou bien est-ce qu'on est d'abord finalement dans un discours qui est de la pure rhétorique et qui est plus là pour oui, faire un effet d'annonce.
Alors, je crois que personne ne pense qu'on est en train de revenir à la révolution culturelle, mais je rejoindrai Émilie Frankel. On a véritablement l'impression que Xi Jinping fait du Bo Xilai sans Bo Xilai. C'est-à-dire que son répertoire idéologique, ce sont essentiellement les vieilles idées de Mao. Hein, vous parliez tout à l'heure de la campagne contre la corruption. Les tigres, c'est une expression des années 50, hein, des trois Antilles, les mouches aussi. Aujourd'hui, on organise. C'est la première fois depuis 1942 qu'un dirigeant du parti convoque des écrivains pour leur faire part de ses idées sur la littérature et sur l'art. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc les gens s'inquiètent un peu, enfin en tout cas une partie des écrivains, des intellectuels s'inquiètent, car il semble que le pouvoir n'hésite pas à réutiliser les vieilles méthodes. On attendait des réformes, on attendait une démocratisation du régime, et en fait on a un appel aux vieilles bonnes traditions du parti, le rétablissement de ces traditions, avec effectivement les idées de Mao. Et alors vous voyez, on a actuellement une polarisation sociale en Chine, c'est quelque chose qui est effectivement très grave et qui inquiète beaucoup les gens. Alors on dit, eh bien, il faut que les écrivains et les cinéastes ne parlent pas des riches. Si vous regardez la télévision chinoise, effectivement on a essentiellement les nouveaux riches qui sont en train dans des séries télévisées. Alors là, au contraire, il faut parler des pauvres. Mais évidemment, c'est une façon d'imposer un certain nombre aux écrivains de revenir dans la ligne.
Émilie Frankel, est-ce qu'on peut aussi voir une intention à l'égard, peut-être plus positive cette fois, des masses rurales, justement, puisque c'est comme ça qu'elles sont présentées, c'est-à-dire le fait de dire non, vous n'êtes pas totalement à l'écart de la modernisation de la Chine, on pense quand même à vous, en gros, en disant, ben voilà, on va vous envoyer nos artistes.
D'une certaine façon, oui. Après, je ne suis pas sûre que les masses rurales sont vraiment suivent de très près ce genre d'annonces. Maintenant, dans les villes, il y a énormément de gens qui viennent des campagnes et qui se sentent un petit peu délaissés, marginalisés, un peu snobés, effectivement, qui voient toutes ces classes moyennes n'ont aucun problème à montrer en fait leur prospérité et à quel point ils ont profité des réformes économiques qui sont en train d'être approfondies. Et du coup, c'est aussi pour, à mon avis, c'est un message pas forcément pour ceux qui sont très éloignés de Pékin, qui sont dans des tout petits villages et pour qui cela n'importe pas vraiment, mais pour ces urbains depuis peu en fait et qui se sentent un peu marginalisés.
Ding Dong, je crois savoir que vous-même, vous avez passé quelques années à la campagne pendant la révolution culturelle, même si vous nous avez bien expliqué que la décision d'y envoyer des intellectuels était antérieure à cette révolution culturelle. Mais en tout cas, c'est vrai que la référence pour nous, elle est plus sur cette période-là, c'est-à-dire en gros de 1966 à 1976. Est-ce que cette histoire-là et ces souvenirs-là, donc, sont transmis à la jeune génération aujourd'hui en Chine, ou bien est-ce que c'est compliqué de raconter ce qu'a été ce moment de l'histoire de votre pays?
Je vous ai écouté attentivement tout à l'heure. J'ai des points de vue différents des vôtres, à vrai dire. Cette rencontre avec la délégation d'artistes, des travailleurs de l'art, n'a pas pour but de faire pression auprès des artistes. C'est en fait une campagne, disons, charismatique. Le président Xi cherche à communiquer directement avec les artistes.
pour manifester ouvertement sa connaissance de l'art, son niveau de culture.
Et aussi,
cette capacité d'interagir avec les artistes.
在当时也确实收到了这样的效果。
Et il est vrai que cette campagne a fait ses effets, a eu un effet retentissant.
第二呢，就是说他这里即使包含要求文艺工作者上山下乡。
Il est vrai que il vient de lancer cette politique qui consiste à envoyer les artistes à la campagne.
和我六七十年代下乡插队,
mais il faut savoir que cette campagne n'a rien à voir avec l'envoi des jeunes intellectuels à la campagne dans les années 60 et 70.
大家知道中国有这个户口二元结构,
vous savez qu'en Chine, il existe le système de résidence rurale et citadin.
不管是我当时下乡当知青, 或者习近平当时下乡当知青,
j'ai été envoyé à l'époque à la campagne, le président Xi également.
就都失去了城市户口，变成了农村户口。
Et cela voulait dire que moi, de même que le président Xi, avait perdu notre permis de résidence dans les villes. On avait acquis à l'époque donc le permis de résidence à la campagne.
当时这个城乡生活的差别是很大的。
Et il faut par ailleurs savoir que le niveau de vie entre les villes et les campagnes était extrêmement différent. Pour les jeunes intellectuels qui ont été envoyés à la campagne, ils devaient subir cette différence. Ils devaient être formés au goût de l'endurance.
也可以叫锻炼,
c'est une sorte de formation pour ces jeunes intellectuels.
但是就是说这个知青到农村吃苦以后, 他想再回到城市,
mais après avoir été formé à la campagne, il a été très difficile pour ces jeunes de retourner en ville.
C'est justement une des questions que je me posais en voyant que Xi Jinping a pris cette décision, alors que lui-même a donc séjourné, comme vous le disiez, Ding Dong, à la campagne. C'était de 15 ans à 22 ans. Comment un dirigeant qui a connu cette tragédie, Jean-Philippe Béja, peut aujourd'hui finalement s'en servir? Parce que même si les conditions sont évidemment différentes, forcément, la référence, elle apparaît quand même assez immédiatement. Est-ce que c'est pour montrer que lui, finalement, s'en est sorti et que ça n'était pas si grave que ça ?
Écoutez, si vous voulez, il y a eu à peu près deux réactions à l'envoi à la campagne. Il y a ceux qui, en allant à la campagne, ont découvert que la propagande et la réalité, c'était deux choses complètement différentes. On leur disait que les paysans étaient favorables aux collectivistes, qu'ils étaient favorables à la pensée de Mao Tse-tung, et ils se sont rendus compte que c'était bien plus terrible. Ils se sont rendus compte que le grand bond en avant avait fait des dizaines de millions de morts. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit il faut essayer de changer les choses. Et donc, ce système, en fait, n'est pas un bon système. Ça, c'est une partie des gens. C'est un certain nombre d'entre eux sont devenus démocrates. Il y en a un qui, aujourd'hui, est prix Nobel de la paix et se retrouve en prison. Et puis, il y a une autre partie des gens. Il y a d'autres gens. Il y a ceux qui, au début, ont beaucoup souffert. Et c'est le cas de Xi Jinping. Il était dans des conditions très difficiles. Il a essayé de rentrer en ville clandestinement 3 fois. Et puis après, il a fait 10 fois sa demande d'adhésion au parti. Alors, c'est-à-dire que pour un certain nombre de gens, c'est au contraire une période qui leur a permis de s'intégrer à ce système. Et c'est surtout la formation, les idées de Xi Jinping ne vont pas au-delà de cette période de sa formation. C'est-à-dire qu'il manque d'ouverture d'esprit. Il est, très franchement, ses ressources idéologiques, c'est essentiellement la pensée de Mao Zedong de l'époque, un petit peu. Et donc, alors, je ne crois pas du tout qu'il veuille renvoyer qu'il veuille réitérer le mouvement d'envoi des jeunes à la campagne. Ce n'est pas du tout ça. Simplement, cette idée, c'est aujourd'hui, le parti doit servir le peuple comme il le faisait dans les mythes, dans le rêve, au début des années 50, cet âge d'or du parti. parti. Et dans ces conditions, les écrivains doivent être au service du peuple. Alors évidemment, le problème, c'est que le peuple aujourd'hui n'est pas tellement dans les campagnes. Hein. Il est, comme le disait Amélie Frankiel, dans les villes. Mais on ne parle pas d'aller écrire avec les non-mingons, avec ceux qui sont les véritables artisans du fameux miracle économique chinois.
Amélie Frankiel.
Oui, je pense en effet que Xi Jinping n'a aucun souci à vraiment tirer en fait toutes ces ressources idéologiques de la période maoïste. Il en use et abuse. Je pense qu'il n'est pas vraiment idéologiquement, on n'est pas sûr qu'il soit si orienté que ça, qu'il le fasse vraiment avec grande conviction. Moi, je pense que c'est un pragmatique, en fait. Enfin, un pragmatiste, il le fait parce que...
Parce qu'il y a une nostalgie, peut-être, en Chine de ces années-là?
Oui, mais je pense surtout qu'il a peur du vide idéologique et de ses conséquences pour... à mon avis, c'est une menace. Et à mon avis, je ne suis pas la seule à le penser. C'est aussi ce que les dirigeants chinois pensent maintenant. C'est une menace pour le maintien du parti, en fait. Une grande partie de ses ressources idéologiques, de ses justifications, légitimations idéologiques, ne tiennent plus. Et donc, ils sont en train de les réactiver parce qu'il y a une réforme économique qui est en contradiction avec tout ça. Et donc, ils sont en train de montrer que non, ils ne sont pas entièrement en train de se tourner vers les élites, vers les classes moyennes, tous ces slogans qui semblaient passer, en fait, vont être réactivés dans un nouveau sens. Que le parti a toujours raison d'être, en fait.
Donc, on est plus dans une stratégie politique pour assurer la pérennité du Parti communiste chinois, Ding Dong.
Il y a quelque chose que je n'avais pas terminé tout à l'heure.
Ah, pardonnez-moi.
J'aimerais vous dire que cet envoi d'artistes à la campagne n'a rien à voir avec l'envoi des jeunes intellectuels à l'époque. Non plus à l'envoi des artistes à l'époque où Jiang Qing était au pouvoir.
Les
artistes qui ont un poste officiel dans l'institution artistique chinoise, s'ils sont envoyés à la campagne, ils bénéficieront de très bonnes conditions de vie. Ils peuvent tout aussi bien préserver leur poste en ville et aussi leur salaire. Et ils gardent en même temps leur permis de résidence en ville. Et ils ne sont non plus forcés d'aller à la campagne comme à l'époque de Jiang Qing. C'est une sorte de camp de vacances. Vous savez que Pékin souffre de smog, de pollution, de brouillard, de pollution. Et ces artistes, une fois à la campagne, peuvent respirer l'air pur de la campagne. Cette campagne culturelle, artistique, n'aura pas d'impact négatif sur ces artistes officiels. J'aimerais aussi vous dire que cette politique n'est qu'un des éléments lancés lors de la rencontre entre le président Xi et les artistes. L'un des objectifs essentiels de cette rencontre est de soulever la question de la relation entre le marché culturel et le gouvernement. À savoir qu'il faudra lutter contre la vulgarité dans la culture, dans l'art. Voilà une nouvelle idée lancée par Xi Jinping.
Parce que Mao Zedong 时代呢不存在这个处理这个文艺怎么和市场的关系，毛泽东不需要考虑这个，因为毛泽东时代没有市场经济。
嗯， à l'époque de Mao où l'économie de marché n'existait pas, Mao n'avait pas à réfléchir à la relation entre le marché et la culture.
习近平面对遇到了新问题，他在这个问题上表现出他自己新的思考。
Voilà, Monsieur Xi est là pour réfléchir sur cette nouvelle question qui émerge.
如果把他这个思考的结果变成一个好像就是说会受到底层草根的欢迎，这个可能又会产生一个误会。
Et si cette politique est appréciée par la base, je pense que là, un nouveau malentendu surgira.
Alors, vous faites preuve d'un vrai optimisme par rapport à ces envois d'artistes à la campagne. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce que vous dites sur le rapport en fait, entre les artistes, et notamment l'art contemporain avec le pouvoir. Est-ce que le pouvoir chinois, Émilie Frankel, a un problème avec ces artistes et en particulier avec ceux qui ont un succès à l'international? L'art chinois aujourd'hui, c'est un des principaux marchés, en tout cas, marchés de l'art dans le monde.
Alors, je pense que c'est pas seulement une question liée au problème que ça peut poser au pouvoir. Ça pose un problème aux jeunes chinois qui sont nationalistes. Aussi. Et c'est eux qui, sur Internet, par exemple, vont lancer des campagnes contre certains films de tel ou tel réalisateur qui trouvent beaucoup trop orientés vers les pays occidentaux, etc. Et à ce moment-là, ils vont d'une certaine façon aussi mettre la pression sur le gouvernement pour qu'ils fassent attention à ce que l'image de la Chine ne soit pas ternie par ces réalisateurs, artistes et autres qui donnent une image de la Chine qui convient bien au marché occidental, mais qui ne montre pas forcément le pays sous son meilleur jour. Donc il y a effectivement ce souci. Et je voulais simplement ajouter aussi quelque chose sur une notion qui, à mon avis, en fait, cette annonce, c'est plutôt proche d'une campagne qui est aussi date de l'époque maoïste et qui est, enfin, d'un concept qui est la ligne de masse. Et en fait, c'est une vieille notion qui revient à la mode, enfin, dans le discours officiel. Et c'est parce que le parti ne veut pas qu'on lui reproche d'être coupé des masses. Et donc, il envoie, en fait, assez régulièrement, en tout cas, il dit qu'il le fait et qu'il veut le faire, il envoie de plus en plus de fonctionnaires passer, justement, faire des stages à la campagne, passer une semaine chez des villageois très pauvres, etc., pour voir dans quelles conditions ils vivent, pour mieux les comprendre et pour mieux gérer leurs problèmes, y répondre, etc. Et donc, je pense que c'est plutôt dans la lignée, en fait, de cette ligne de masse en fait qu'on est en train de raviver pour montrer que le parti est pas complètement coupé des masses qu'il faut comprendre cette annonce.
Monsieur Ding, il y a une question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure quand j'interrogeais l'historien que vous êtes à propos de la connaissance des Chinois de cette période maoïste. J'ai cru comprendre que vous aviez créé vos deux revues, notamment la revue de photos, pour justement essayer de raconter l'histoire autrement que la façon dont elle est racontée de manière officielle.
En fait, j'aimerais poursuivre ma discussion.
Vous ne voulez pas répondre à la question et ensuite poursuivre la discussion parce que c'est un peu compliqué. Et ensuite, je vous promets que vous pouvez poursuivre.
Parce que je n'ai pas terminé d'exposer mon opinion tout à l'heure.
Il ne reste plus que 10 minutes. Si vous pouvez juste signaler à M. Ding que on n'a déjà plus beaucoup de temps.
La question de l'histoire et la question de l'art, de la culture sont très différentes, bien sûr.
而这个习近平这次文艺座谈会呢，它不是一个历史问题或者社会科学界的一个座谈会，它就是一个文艺座谈会。
La rencontre entre Monsieur Xi et les artistes consiste à parler des questions artistiques, mais non pas de l'histoire.
这次这个座谈会上呢，他也表现出了意识形态的导向性。 最引起人们争议的呢，就是这个邀请了两个网络作家。
Lié aussi à l'idéologie, lors de cette rencontre, deux blogueurs ont été invités.
这两个网络作家呢，他的文化修养和艺术成就都是受到质疑的。
Deux écrivains ont été remis en question. En ce qui concerne leur niveau de culture, mais ils ont quand même été invités à cette rencontre. Et c'est pour envoyer en quelque sorte un signal. Les écrivains, les artistes en dehors du système officiel.
如果你发出拥护主流的声音，就会受到奖励。
Si ils font éloge du système, ils sont récompensés par le système politique.
但是为什么受到质疑呢？就是因为选择的这两个网络作家，
ces blogueurs sont remis en question,
艺术成就，
c'est parce que leur niveau de culture,
实在太低了，
leur succès artistique reste très limité.
就是说，这个刚才就是讲这个文艺和人民这个问题啊。刚才以为就是说这个习近平号召文艺工作者上山下乡，这个结果就会导致这个文艺会受到底层草根的欢迎。Mieux
que peut-être si on envoie les artistes à la campagne, l'art sera apprécié par la base.
但是呢。 恰恰有一个悖论，就是受到底层草根欢迎的一些文艺作品，恰恰是被认为低俗的这些作品。
C'est-à-dire que les œuvres appréciées par la base sont des œuvres qui respirent la vulgarité.
Bon, je renonce à vous entendre sur finalement le niveau de connaissance historique des Chinois sur la révolution culturelle, mais ce n'est pas très grave. La discussion, de toute manière, est intéressante et assez surprenante, je dois dire, en ce qui me concerne, Jean-Philippe Béja, d'entendre monsieur Ding finalement défendre à ce point, mais c'est évidemment votre droit, hein, cette décision d'envoyer, effectivement, alors c'est très différent de la révolution culturelle, mais d'envoyer temporairement des artistes à la campagne. Est-ce qu'on peut dire, Jean-Philippe Béja, en tout cas, que c'est une décision qui peut bénéficier d'une forte adhésion populaire en Chine. Et là, ce qu'on entend ce soir, finalement, c'est ce qu'on pourrait entendre de façon assez naturelle, disons, en Chine.
Non, je ne crois pas. Je crois que, en fait, moi, du moins, ce que j'ai rencontré, je suis étonné que Ding Dong ait cette réaction. Ce que j'ai entendu lorsque j'étais en Chine, c'est surtout cette espèce de retour d'une idée maoïste. Je suis tout à fait d'accord. Je ne crois pas que Xi Jinping croit particulièrement au maoïsme. Il pense que c'est l'idéologie qui permet de sauver le parti. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est cette idée. Je crois que Ding Dong a raison sur les conditions dans lesquelles les écrivains iraient dans les campagnes, bien évidemment. Mais simplement, ce qu'il veut montrer, c'est j'ai des idées sur la littérature et l'art, j'ai des idées sur la façon dont la Chine doit se développer, j'ai des idées sur le style de travail du parti et sur la morale et la politique. Voilà. Et ces idées-là, je vais les imposer, car ces idées sont celles qui vont permettre... Il a, à cette conférence, il a pris un selfie avec Zhou Xiaoping. Zhou Xiaoping, ce blogueur dont parlait Ding Dong, s'est illustré non pas seulement par la faiblesse de son niveau culturel, mais par des injures contre tout ce qui est occidental. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait particulier. Alors ça a beaucoup choqué nombre d'écrivains qui, pendant les années 80, se sont battus pour essayer d'ouvrir la Chine sur le monde. Donc évidemment, c'est un signal qui est envoyé. Il n'était pas obligé de faire une photo avec Zhou Xiaoping. Ça veut dire, aujourd'hui, il faut être de nouveau, il faut être chinois, il faut développer ce qui est à l'intérieur de la Chine, et il faut surtout pas, il a dit à plusieurs reprises, il ne faut pas s'inspirer, il ne faut pas écrire pour les étrangers, il ne faut pas écrire pour avoir le prix Nobel. Il y avait Moyenne qui était là. Je veux dire, c'est quand même assez clair.
Prix Nobel de littérature.
Donc, il y a toute une attitude qui est utiliser un certain nombre de ressources idéologiques pour réaffirmer. Alors, est-ce que ça veut dire que ça obtient le soutien du peuple? Je crois que c'est véritablement regarder la base, comme on dit, avec un certain mépris. Je ne crois pas que l'ensemble des citoyens de base de Chine soient des nostalgiques du maoïsme. Ce n'est pas du tout le cas. Il y en a, bien sûr, mais ils ne sont pas plus nombreux à la base qu'au sommet. Vous avez parmi ceux qui lancent les sites maoïstes, ce sont des gens qui sont des professeurs d'université. Il y a des professeurs de Beida qui y sont. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Le populisme n'est pas nécessairement apprécié par le peuple. C'est une stratégie du pouvoir qui est d'utiliser celle-là. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y croit, mais j'en sais rien. Je ne connais pas, il me dit rien. J'ai l'impression que c'est plutôt du pragmatisme. Vu la popularité de Bosilai, il se dit, je vais utiliser ces recettes-là.
Vous dites que c'est une stratégie pour renforcer l'assise du parti, mais est-ce que ça n'est pas d'abord une stratégie pour renforcer son propre pouvoir à lui, Émilie Frankiel?
Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, avec cette annonce, Xi Jinping montre encore qu'il ouvre en fait son champ d'intervention. Par rapport à Hu Jintao, par exemple, en fait, il s'exprime sur beaucoup plus de domaines. En fait. Et il essaie clairement d'être un président beaucoup plus fort, qui a des choses à dire sur vraiment l'ensemble des domaines qui concernent son pays et ses concitoyens.
Avec, par exemple, une plus forte personnalisation du pouvoir, beaucoup plus que ça ne pouvait l'être sous Hu Jintao.
Oui, une plus forte personnalisation. Et puis, il tient vraiment à montrer que c'est un homme très fort. Il concentre en fait énormément de pouvoir, ce qui est le cas dans les coulisses, mais aussi dans sa façon en fait d'aborder les médias, de faire des annonces, etc.
Mais est-ce qu'il a besoin de ça? C'est-à-dire, est-ce que finalement il était trop faible lorsqu'il est arrivé au pouvoir pour avoir justement besoin et d'envoyer ces signaux politiques et aussi de mener cette vaste lutte contre la corruption où il y a eu un certain nombre de grands dirigeants qui ont été évincés. Alors, on a parlé de Bosilai, il y a aussi eu, alors pardonnez-moi pour la prononciation, mais l'ancien chef de la sécurité intérieure chinoise et qui a été arrêté tout récemment, c'était début décembre, Zhu Yongkang, arrêté, expulsé du Parti communiste pour corruption, là encore. Et j'ai lu quelque part que c'était la disgrâce la plus retentissante en Chine depuis 1949, Jean-Philippe Béja.
Oui, bien sûr. Disons que c'est toujours cette lutte contre les tigres. Alors, effectivement, renforcer son pouvoir. Il faut voir quelque chose. Xi Jinping appartient à ce qu'on appelle la génération des Hong Erdai, c'est-à-dire des rouges de la deuxième génération ou des princes. Or, l'idée d'un certain nombre de membres de cette génération, à laquelle appartenait aussi Bosilai, d'ailleurs, tout à fait par hasard, et c'est de dire, nous, cette génération, nous ne sommes pas corrompus, nous sommes les héritiers naturels qui vont sauver ce régime. Or, les précédents, il y avait des gens qui étaient corrompus. Là encore, si vous regardez la condamnation de Zhou Yongkang, la première mesure de Bosilai, quand il est arrivé à Chongqing, a été de faire condamner à mort Wen Qian, qui était le responsable de la sécurité. Donc, il y a une espèce de parallélisme dans l'action de Xi Jinping avec celle de Yongkang. Et donc, personnaliser le pouvoir, ça aussi, c'était l'une des actions de Bosilai.
Émilie Frankiel.
Si je peux me permettre, il y a un autre parallélisme qui est que, je suis en train de perdre le fil, bien sûr. Ce Bosilai, il était populaire parce qu'il s'est mis en avant. Il avait fait des études de journalisme et il avait un style, en fait, qui était très différent. En tant qu'homme politique chinois, il détonnait, en fait. Il attirait les regards, il mobilisait la presse, il faisait des annonces retentissantes. Et je pense que Xi Jinping a appris la leçon. Si Bosilai était aussi dangereux, un rival aussi dangereux, c'est justement parce qu'il avait fait ça et donc il a voulu reprendre un peu ses recettes qui fonctionnaient bien.
Voilà, donc si Xi Jinping s'inspire de Mao Tse-tung, il s'inspire aussi de son ancien rival. J'ai pas de questions à vous poser, Ding Dong, mais je vais vous laisser en revanche réagir à ce qui vient d'être dit, sachant qu'on est quasiment au terme de l'émission.
L'anti-corruption
est un des dossiers important pour le président Xi. C'est une façon pour lui de montrer son charisme.
但是这个问题呢和刚才我们谈的那个文艺问题呢，我觉得好像它是不同的问题，它是不同的领域，用不同的方式来阐释它，显示它的魅力，加强它的权力。
De la campagne, qui consiste à envoyer les artistes à la campagne, parce qu'il s'agit de deux domaines différents qui permettent à la fois à renforcer le pouvoir de Xi Jinping.
Merci beaucoup, en tout cas, Ding Dong, d'être passé par notre studio justement pour discuter avec nous. Je crois que vous repartez demain en Chine. Voilà, merci d'avoir participé à cette discussion et merci à Virginie Chen d'avoir traduit vos propos surprenants, hein, je le dis à nouveau. Mais voilà, c'est aussi l'intérêt de ce genre d'émission. Émilie Frankel, merci à vous. Je renvoie à la lecture de votre dernier ouvrage. Parler politique en Chine au PUF, publié en mars dernier. Il y en a aussi un autre que vous aviez écrit avec Jean-Louis Roca, La Chine en mouvement, au PUF en 2013. Merci beaucoup Jean-Philippe Béja. Séjour donc en France, bientôt en Chine. Vous ne savez pas encore quand, je crois.
Ce sera pour bientôt, j'espère.
Prochainement. Voilà, merci à vous. Les commentaires, c'est comme chaque jour sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, émission que vous pourrez réécouter pendant 1000 jours et télécharger pendant un an. Demain, le Grain sera consacré à la vulgarisation scientifique. Nous nous demanderons si les mathématiques et les sciences doivent être ludiques. Tout de suite, c'est le rendez-vous et c'est avec Laurent Goumard. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Hervé Gardette. En effet, dans quelques minutes, c'est le rendez-vous, journal en direct sur le fil de l'actualité culturelle, médiatique et musicale. Une émission cinéma-cinéma ce soir avec Catherine Mouchet et Raphaël Personnaz. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres. Et parce que vous écoutez France Culture, il est bien 19h.